Et la bonne nouvelle, comme je suis en remplacement ce matin, je vais être très long. Voilà. Il paraît qu'il faut que je tienne jusqu'à 16 heures. Donc, puis à 16 heures, on va me dire continue. Voulez-vous lire avec moi dans Luc au chapitre 5e et au verset 17e, un texte connu par les lecteurs de la Bible. Et dans ces temps un petit peu difficiles dans notre monde avec ce virus, mes frères et sœurs, ne paniquez pas. Agissez avec sagesse. N'allez pas au-delà de ce qui pourrait être permis et n'oubliez pas que la foi n'exclut pas la sagesse. Voilà. Soyons, permettez-moi entre guillemets, intelligents spirituellement parlant. Et Dieu est tout puissant pour vous garder. Gloire à son nom. Amen. Donc vous avez trouvé Luc au chapitre 5, verset 15. Un jour, Jésus enseignait des pharisiens et des docteurs de la loi étaient assis. Ils étaient venus de tous les villages de Galilée, de Judée, de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici que des gens portant sur un lit un homme qui était paralysé cherchaient à le faire entrer et à le placer devant lui. Comme ils ne savaient pas par où l'introduire, à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit à cet homme, « Tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes ? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus connaît leur raisonnement, prit la parole et leur dit, « Pourquoi faites-vous de tels raisonnements dans vos cœurs ? Qu'est-ce qui est plus facile de dire, « Tes péchés te sont pardonnés ?» ou de dire « Lève-toi et marche ». Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, « Je te l'ordonne, dit-il au paralysé, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison en glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. Remplis de crainte, ils disaient, « Nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. » Alléluia. J'aime bien cette expression, j'aime bien toute la lecture du texte sur lequel nous allons nous appuyer pendant quelques instants, mais j'aime bien la conclusion de ce texte. J'espère que vous êtes dans la même position de penser et que vous puissiez bien réaliser qu'avec le Seigneur, nous pouvons voir des choses étranges. On pourrait dire aussi étonnantes, mais étranges. Les hommes sont étonnés, présents dans cette salle, la foule qui est là dans cette maison, est étonnée par les choses qu'ils ont vues et entendues. Mais ce que je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, ce matin, c'est que celui qui a fait que les hommes réfléchissent et disent « Nous avons vu des choses étranges et même entendues », c'est parce qu'il y a là, au milieu d'eux, quelqu'un qui a tout pouvoir. Le pouvoir sur la maladie, sur la puissance du mal, j'oserais même dire sur la puissance du malin. Il est là, il a une parole de vérité, il est celui qui guérit et il est celui qui pardonne. Alléluia. Mais la bonne nouvelle que vous devez connaître, c'est que ce Jésus qui était dans cette maison, il est présent au milieu de nous. Amen. Alors, collectivement, bien sûr, d'ailleurs il est écrit, là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Mais il ne faut quand même pas oublier que le Seigneur Jésus et que la parole de Dieu par le Saint-Esprit nous enseigne, et il nous dit que le jour où nous sommes convertis, où nous donnons notre corps, nous faisons partie du peuple de Dieu, de cette église, de cette assemblée. Quand on dit église, ce n'est pas le bâtiment, c'est Christ. Enfin, les frères et sœurs qui sont unis à Christ et qui forment l'église. Et Dieu dit, je suis au milieu de vous, c'est-à-dire je suis au milieu de l'église. Mais en même temps qu'il dit, je suis au milieu de l'église, il nous rappelle aussi, par le Saint-Esprit, dans les Saintes Écritures, que vous êtes individuellement le temple du Saint-Esprit, le temple de Christ, le temple de Dieu. Et bien souvent, les enfants de Dieu oublient que lorsqu'ils se convertissent, ils ne s'appartiennent plus, mais ils appartiennent à Dieu. Et qu'ils ne sont plus seuls parce que le Dieu d'amour se manifeste en nous parce qu'il a fait de nous son temple, et il se manifeste en nous par la puissance du Saint-Esprit. Or, quand nous sommes réunis, frères et sœurs, dans l'Église, comme dans l'individualité, chaque fois que nous nous approchons du Seigneur, il y a avec lui la bénédiction. Il y a avec lui le pardon et la guérison. La guérison du cœur, la guérison de l'âme, la guérison de l'esprit et la guérison du corps. Puisqu'il a dit, et le Seigneur répondra toujours aux besoins de ses enfants comme aux besoins de l'Église. Mais ce que Dieu veut voir aussi dans le sein de l'Église et dans le service des enfants de Dieu qui sont le temple de Dieu rempli du Saint-Esprit, ce que Dieu veut voir, ce sont l'Église en action, ce qui veut dire les frères et sœurs en action. En action pourquoi ? Pour eux-mêmes, oui, quelque part, mais en action de façon à ce que l'Église puisse croître par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est ça la vérité. Êtes-vous, sommes-nous, suis-je moi-même, conscient que je fais partie du peuple de Dieu et que Dieu habite en moi ? Personnellement, je dis oui. À partir de ce moment-là, frères et sœurs, si nous avons la même réponse, il faut se mettre au service de Dieu. Afin de permettre à l'Église de grandir. Il ne faut pas se satisfaire de ce que nous sommes. Il faut permettre à l'action du Saint-Esprit de grandir au milieu de nous et d'acquérir des âmes nouvelles. Ah oui, je me sentais seul subitement là. Mais quand je dis grandir dans l'Église de manière à gagner des âmes, il faut aussi qu'elle grandisse dans la foi. Il faut qu'elle grandisse au travers des recherches du don du Saint-Esprit pour qu'elle puisse s'affermir dans tous les combats qu'elle connaîtra dans ce monde qui va à sa perte. L'Église doit toujours être cette lumière qui éclaire le monde. Mais elle ne pourra éclairer le monde que si l'Église est remplie de l'action puissante du Saint-Esprit. Et que chacun à sa place, ou à la place que Dieu lui a donnée, au service que Dieu lui demande de faire, si chacun répond par l'affirmative et par le désir de voir la gloire de Dieu se manifester au sein de l'Église, alors cela se fera. Parce que Dieu honore la foi et Dieu veut voir son Église grandir. Mais en même temps que je parle de l'Église qui grandit, chaque enfant de Dieu doit aussi grandir individuellement dans la foi, dans l'action de l'Esprit, dans le sérieux de l'écoute et de la lecture de la parole de Dieu. Je ne peux pas me satisfaire de ce que je suis, mais je dois toujours, comme le dit la parole, marcher de progrès en progrès. Je ne peux pas rester tel que je suis. Je ne peux pas dire, bon ben non, j'ai avancé jusqu'ici, c'est bien. Non, je dois aller toujours plus de l'avant et toujours plus haut. Dans la foi. Dire, Seigneur, sers-toi de moi, non seulement pour le témoignage autour, dans la région, dans la ville, dans le bâtiment où je suis. Sers-toi de moi, Seigneur. Remplis-moi de ton esprit, donne-moi ta sagesse, donne-moi ta parole, pour que je puisse contacter des personnes en ton nom et que je puisse, par ta grâce, les voir sauvées. C'est cela, je dirais, l'aventure de l'Église, si je puis me permettre ce mot. On ne peut pas rester dans une position stagnante quand on est avec le Seigneur. Déjà au départ, quand le Seigneur a appelé ses disciples, ils étaient tous en train de vaquer à des situations différentes. Mais quand on regarde Jésus venir vers les disciples, la première des choses qu'il a dit en les regardant, c'est « Suivez-moi ! » Il n'a pas dit « Je vous ai vu, je vous ai connu, c'est bien. » Non, il leur a dit « Suivez-moi ! » Et alors, d'un seul coup, on s'aperçoit que les disciples, quand ils ont entendu ces paroles « Suivez-moi », il est écrit, ils ont tout laissé et l'ont suivi. Ça ne veut pas dire que tous nous allons abandonner notre travail. Cela veut dire que Dieu cherche des témoins à la gloire de son nom et qu'il va se servir de ces témoins là où ils se trouvent, dans la maison, dans le travail, dans le quartier, dans la ville. Mais sommes-nous nous disposés à se lever véritablement, surtout dans les temps dans lesquels nous rentrons, et de dire « Je suis un enfant de Dieu, je suis le Fils de Dieu et la Fille de Dieu, je suis moi aussi la lumière, parce que je transmets le nom de Jésus. » C'est cela la vérité. Si nous sommes disponibles, le Seigneur se servira de nous. Alléluia. Peut-être quelqu'un pourrait dire ce matin, je pense que ce n'est pas le cas, donc c'est un exemple. Je fais et je vois rien. Le Seigneur t'a pas dit de voir, t'a dit de faire. Et pourquoi je dis cela? Parce que les résultats, c'est pas toi qui dois les voir. C'est lui qui te les fera voir en son temps. Alléluia. Vous savez, il faut jamais se décourager. Un jour, il y a, dans une certaine église, une mémé qui était fervente et croyante. Pendant des années, elle a marché avec le Seigneur et elle est décédée. Et pendant toute sa vie, elle a prié pour le Seigneur. Elle a prié, pardon, le Seigneur pour les siens, pour toute sa famille qui était nombreuse. Et au jour de l'enterrement, eh bien, les membres de sa famille sont venus l'accompagner, comme on dit, vers la dernière demeure. Et bien sûr, ils ont entendu l'évangile. Et gloire à Dieu, parce que Dieu est celui qui exauce les prières. Voyez-vous cette dame, cette mémé, cette sœur, du temps de sa vie, elle n'a jamais vu un membre de sa famille se convertir. Mais le jour où elle est rentrée dans la gloire, Dieu s'est souvenu de ses prières. Et dans les temps qui ont suivi, dans les mois et les années, les courtes années qui ont suivi, toute sa famille s'est convertie. Elle l'a pas vu, mais elle le verra. Vous comprenez ce que je veux vous dire? De ne pas vous décourager, de ne pas chercher à comprendre, mais de faire confiance. Voyez-vous, dans le texte que nous avons lu, il y a là aussi cette expression qui est formidable. Il nous est dit que donc Jésus a guéri et pardonné un homme qui était paralytique. Et la question que je pose, c'est celle-ci. Pourquoi cet homme... Tiens, vous avez peut-être la réponse. Pourquoi cet homme a-t-il été guéri et pardonné? Il y a quelqu'un qui... J'ai jamais mangé personne encore quand je pose des questions. Ni mordu d'ailleurs. Est-ce que quelqu'un a une réponse?
C'est pas le point de départ.
Je vais prendre celle-là comme bonne. Si cet homme a été guéri, c'est parce qu'il avait 4 amis. Hein? Et vous allez me dire, mais alors, attendez, vous parlez de foi, vous parlez de sagesse, vous parlez... Oui, je reviens, il a 4 amis. Et quand vous lisez le texte, et je pense que vous l'avez lu, vous pourrez le relire aussi dans Marc, vous vous apercevrez que ces quatre amis, quand ils ont ils avaient connaissance de la maladie qui était inguérissable pour leur ami, mais ils ont entendu que Jésus était dans une maison et qu'il était en train de prêcher l'évangile, le nom de Jésus, la bonne nouvelle de la délivrance. Alors ces quatre amis, et j'aime bien cette expression qui est donnée, ils eurent le désir d'amener leur ami à Jésus. Il est même précisé aux pieds de Jésus. Vous l'avez entendu quand nous l'avons lu ? Bon, je relis le texte alors. Non. Ils l'amenèrent, le désir, aux pieds de Jésus. Eh oui, c'est louable, non ? Vous ne pensez pas que c'est louable ? Ils ont entendu parler de Jésus puisque la renommée de Jésus était répandue partout. Il savait que donc Jésus était celui qui aussi avait une parole, mais qui faisait des miracles qui confirmaient sa parole. Alors, ils ont eu à cœur d'amener leur ami au pied de Jésus. Laissez-moi vous dire que pour eux, ça n'a pas été facile. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors je vais vous dire pourquoi ça n'a pas été facile, c'est parce que quand ils sont arrivés à la maison, on l'a lu, je ne fais que reprendre le texte, il nous est dit qu'ils ne purent pas rentrer, ni par la porte, ni par une fenêtre bouchée. Ça me fait penser à cette expérience que nous avons vécue avec mon épouse. On était dans une église qui était l'église de Marmande. Et pendant qu'on a exercé notre ministère, Dieu a béni ce ministère et le moment de changement a eu lieu. À la dernière réunion, ça va peut-être vous faire sourire, hein, mais à la dernière réunion, la salle était archi pleine. Il n'y avait plus de place. Même les allées étaient occupées. Moi, j'étais donc sur l'estrade, mais pour aller à la porte dire au revoir aux frères et sœurs. Et la salle était pleine, il y avait plus de 120 personnes là, dans une salle qui en faisait apparemment 80-90, vous voyez, ça a été archi pleine. Mais j'avais le désir d'y aller. Vous savez comment j'ai fait ? Vous savez pas, hein ? Je suis passé par la fenêtre. Et, paf ! Je suis passé par la fenêtre, il n'y a que la solution, j'ai ouvert la fenêtre, je suis passé par la fenêtre. Heureusement que ce n'était pas haut, autrement si c'était haut, je ne l'aurais pas fait, hein, même si j'ai la foi. Et j'ai pu aller saluer mes frères et sœurs. Ça, c'est la pensée que je voudrais vous laisser. C'est l'Église doit croître. Mais elle ne croîtra que si nous avons le désir de la voir croître. Et je dis, comme pour ces quatre hommes, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile, mais je dirais qu'ils ont été quand même, entre guillemets, intelligents. Si je puis prendre ce terme. Vous savez que les maisons là, en Palestine, eh bien, de ce temps-là, il n'y avait pas les toits comme nous connaissons aujourd'hui. Il en existe encore ce qu'on appelle les maisons à toit plat dans ces régions-là. Et pour y accéder, on ne passait pas par l'intérieur, on passait par l'extérieur, un escalier extérieur qui nous amène sur le toit plat. Eh bien, ces quatre amis qui voulaient mettre leur ami dans la présence de Jésus, au pied de Jésus, ils ont monté les escaliers avec le lit. Et elle attendait, hein, parce que le lit là, c'était pas un lit dur, hein, c'est ce qu'on appelle aussi un grabat. C'est-à-dire, c'est quelque chose de souple, quelque chose qui bouge. Il fallait bien le tenir déjà pour pas qu'il tombe dans les escaliers. Ça n'a pas été facile à le monter sur le toit, mais ils sont arrivés sur le toit. Oui, mais une fois qu'on est sur le toit, comment on fait pour amener ce malade-là, ce paralytique au pied de Jésus ? Ben, vous le savez puisqu'on l'a lu. Ils le passèrent par le toit. Oui, mais alors pour le passer par le toit, qu'est-ce qu'ils ont dû faire ? Oui, un trou. Un trou de quelle grandeur ? Le trou qui va leur permettre à descendre le lit. Mais attention, le lit, il ne faut pas le descendre n'importe comment, il y a un malade sur le lit. Si je fais un petit trou et que je le fais descendre verticalement, c'est plus un membre, un paralytique, ça va être un homme cassé qui va arriver en bas. Donc ils ont dû faire un grand trou pour le descendre d'une manière horizontale. Et il est arrivé au pied de Jésus. Et vous savez comment ça s'appelle, ça ? Leur action, là. J'en parle un peu maintenant, peut-être si j'ai le temps, je vous dirai le final, mais ça s'appelle l'amour et la persévérance. Non ? L'amour et la persévérance. Alors, tout doucement, ils ont descendu. Je vous fais quand même remarquer que quand ils ont commencé à faire le trou pour descendre le lit, ils n'ont pas dit, tiens, si nous, avant toute chose, il y a quelque chose d'important à faire. Ah ouais ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut aller chercher le propriétaire de la maison et lui demander son autorisation pour faire le trou afin de descendre notre ami. Eh, ils n'ont pas fait ça, hein ? Leur désir, mettre leur ami au pied de Jésus, car seul Jésus pouvait intervenir. Pas de demande. Mais non, il est vrai que ceux qui étaient dans la maison ont dû se demander, mais qu'est-ce qui se passe ? J'y étais pas, mais je crois qu'il y avait des drôles de trombines là. Surtout, vous voyez, les docteurs de la loi, les pharisiens qui étaient là, gens distingués, ils étaient venus voir Jésus, ils n'étaient pas venus voir faire un trou dans le toit. Mais ces quatre amis, pleins d'affection, d'amour, ont descendu leur ami, qu'importe ce que pensaient les gens, tous les regards levés, ils ont vu le lit descendre, Jésus était là aussi, on voyait cela, et voilà. C'est quand même quelque chose de merveilleux. Et vous remarquerez en lisant le texte que ces gens-là, ils n'ont pas dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi on fait un trou ? La seule chose qu'ils ont dit, n'est-ce pas, c'est, comme ils ne savaient pas, bon, ça c'est vu, et au verset 21, il est dit, les scribes, les pharisiens se mirent à raisonner. Vous voyez ? Et qu'est-ce qu'il dit ? Qui est celui-ci ? Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes et qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu ? Voilà, ils ont été dans un raisonnement, non pas pour dire « mais c'est merveilleux ce que font ces gens », ils sont allés dans un esprit de contestation. Mais qu'importe ce qui conteste ? On n'est pas appelé à faire plaisir aux gens qui contestent la vérité. D'autant plus que Jésus a dit « Heureux serez-vous lorsque vous serez persécutés. » Lorsqu'on dira faussement de vous des choses, mais vous serez heureux parce que vous parlerez de mon nom, parce que vous témoignerez de ma parole et de ma puissance. Vous serez heureux et Jésus dira qu'il nous gardera dans tous les temps, dans toutes les circonstances. Eh bien, voyez-vous, il se passe quand même quelque chose que je vais souligner encore. C'est que ces gens-là, les scribes qui ont été des contestataires, eh bien, c'était des gens aveugles. Eh, ne me regardez pas comme ça. Ils étaient aveugles. Ils étaient aveugles spirituellement parlant. Ils ont vu le trou, ils ont entendu aussi ce que Jésus disait, ils ont contesté. Et quand je regarde Jésus, je m'aperçois que Jésus, lui, il a les yeux grands ouverts. Il n'a pas vu seulement ces quatre têtes qui apparaissaient au niveau du trou. Il n'a pas vu seulement ce lit descendre devant lui. Mais il est allé au-delà. Il a vu au-delà du lit, au-delà des têtes. Et il a vu ce qu'il y avait dans le cœur de ces gens-là. Il a vu la foi. Voyant leur foi. Et là, ça nous parle un petit peu. C'est pas le tout de dire « je connais Jésus ». Si je suis un chrétien qui a donné sa vie à Jésus, je dois vivre par la foi. Pas uniquement pour moi, mais pour le salut des autres. croire que quand je témoigne de Jésus-Christ, la parole que je sème avec amour dans un cœur portera des fruits suivant la grâce de Dieu. Je voudrais quand même vous dire à ce niveau-là que le Seigneur n'a jamais dit à son Église et à nous que chaque fois que nous allons témoigner à quelqu'un, ce quelqu'un-là se convertirait. Ça, c'est pas écrit. Mais par contre, il est écrit dans la parole des terrains qu'il nous faut semer. Et que la semence va tomber dans des terrains différents. Les épines, les pierres, la sécheresse du sec. Mais une partie tombera dans la bonne terre. Et c'est dans la bonne terre que va pousser la parole de Dieu, qu'elle va grandir, qu'elle va faire des hommes, des femmes, des jeunes qui vont se convertir et devenir des soldats de Jésus-Christ. Bien sûr que dans d'autres terrains, elle peut pousser, sec, ça ne pousse pas si vous n'arrosez pas, si ce n'est pas entretenu. Les pierres, c'est pareil, ça ne poussera jamais. Et je sais de quoi je parle en disant ça. Même si elle pousse au milieu des épines, et là aussi je sais de quoi je parle, elle va être étouffée, elle ne va rien vous produire, rien donner, même si vous mettez un joli lys planté, et quand il va pousser, il va être étouffé. La semence biblique de la parole de Dieu, elle doit s'entretenir par la prière, par ceux qui la reçoivent, par ceux qui la croient et par ceux qui la communiquent. Et elle doit être arrosée de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. C'est pour cela que le chrétien doit toujours être à l'écoute de la parole de Dieu, la lire et en même temps l'accompagner de la prière qui est source de vie, qui va donner à chacun d'entre nous de comprendre, de réaliser ce que Dieu demande, afin de pouvoir ensuite la communiquer. Et elle tombera, pas avec la grâce de Dieu, dans une bonne terre. Et nous verrons le cœur, la vie être changée et transformée. Dieu cherche des hommes et des femmes qui ont le désir de voir l'Église grandir et de voir des hommes, des femmes et des jeunes gens, des jeunes filles être sauvés. Si c'est sec dans le cœur, il n'y aura aucun résultat. Il faut le désir. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Alléluia. C'est cela la vérité biblique. Amen. Et quand je regarde ça, je me dis, c'est simple. Il y a le désir, il y a la persévérance, il y a la foi, et en résultat, il y a la guérison et le pardon. Gloire à Dieu. Y a-t-il de tels hommes, de telles femmes, de tels jeunes gens, de telles jeunes filles au milieu de nous qui ont ce désir profond? Qu'importe ce que disent les uns, qu'importe ce que disent les autres, Seigneur, je me suis levé à ton appel et je me suis levé pour te servir. Alors, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Alléluia. C'est ça la croissance, persévérance, foi. Et puis quand même, je terminerai. J'espère que je suis toujours dans le temps. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus de tout ça? Le désir, j'en ai un peu parlé tout à l'heure. Bon, il y a le désir, il y a la persévérance, il y a la foi. Et d'après vous, qu'est-ce qu'il peut y avoir en quatrième point? L'amour. L'amour. L'Église de Dieu vit dans l'amour. Un amour fraternel, sincère. Bon, aujourd'hui, on est, vu les circonstances, on est un peu, comment vous dire, contrarié quelque part, parce que on rentre, on se dit coucou. On peut plus se donner le saint baiser, parce qu'il est écrit saluez-vous par un baiser fraternel. Mais c'est pas grave, ça. Il faut être sage. En fait, c'est pas le baiser qui compte. C'est la disposition du cœur. C'est de dire à quelqu'un, un frère, à une sœur, à un ami même qu'on ne connaît pas qui rentre, et avoir le courage de lui dire, même pas le courage, la joie de lui dire, tu sais, je t'aime de l'amour de Jésus. Ouh. Bon, écoutez, tant pis, hein, je me jette. Vous avez un voisin, une voisine à côté de vous, devant, derrière, ben vous allez lui dire maintenant, je t'aime de l'amour de Jésus. Allez-y, je vous donne une minute. Allez-y. Si c'est vrai, dites-vous, je t'aime de l'amour de Jésus. Alléluia. Vous remportez des victoires. Dites-vous, je vous aime, je t'aime mon frère, je t'aime mon ami, je te connais pas, mais je t'aime de l'amour de Jésus. Alléluia. Vous allez voir, vous allez passer une bonne journée. Et demain, vous en verrez d'autres. Ah, je t'aime de l'amour de Jésus. Alléluia. C'est ça qui fait le lien entre frères et sœurs. Amen. Vous savez, il y a des fois des témoignages qui nous marquent dans la vie. Et je me souviens de ce pasteur qui avait écrit une expérience qu'il a vécue. Bon, ce n'est pas pour vous, hein, je ne fais que citer un exemple. Et ce pasteur avait réalisé au cours d'un culte, moi je pense que c'est l'Esprit de Dieu qui avait dû lui donner de réaliser cela. Et il a ressenti en lui que dans l'église dans laquelle il était, il manquait d'amour. Alors il réfléchissait, comment, Seigneur, la prédication, ça n'a pas l'air de porter trop son effet. Et un jour, il a été convaincu d'une chose. Je vous dirai après. Il y avait un mendiant qui, un dimanche matin, se tenait à la porte de l'église. Alors, dans la pensée du frère, c'était de voir comment l'église allait réagir. Et ce mendiant était là. Et tous les chrétiens passaient à côté sans lui témoigner. Je vais au micro parce que autrement, je ne sais pas si tout le monde entend. Donc, voir si les chrétiens allaient réagir d'une manière positive. Et puis, tous passaient à côté, mais dans une indifférence totale par rapport à cet homme. Au bout d'un moment, tous les membres étaient rentrés. Et ce vieil homme qui était là, vieil homme qui était là, il se lève avec ses trucs, on va dire, je ne sais pas s'il s'emploie bien dans un lieu public, mais je vais dire ses frusques usagés, pas mal rasés. Bon, vous voyez, un aspect. Et voilà que cet homme, il se lève. Il rentre dans la salle et il s'assoit un petit peu au milieu de la salle. Et voilà que... Il y en a qui s'écartent. Alors, ce qui était étonnant, c'est que le culte tardait à commencer. Et au bout de 5 minutes, pour ne pas faire durer trop le temps, l'homme qui était avec ses hardes se lève, va vers l'estrade et petit à petit se déshabille. Et quand il s'est déshabillé, quand il s'est enlevé le noir sur le visage, tout le monde a fait « Ah !» C'était le pasteur. Et le pasteur, il leur a prêché l'amour. Je ne vous dis pas les chrétiens. Là, c'est eux qui étaient dans leurs chaussures. Mais ça a fait ce qu'on appelle un électrochoc. Nous devons aimer nos semblables. Nous devons les aimer, nous devons les entourer. Nous devons nous aimer plus que jamais. Le Seigneur Jésus a dit ceci, vous connaissez tous, dans Jean au chapitre 13, verset 34. Aimez-vous les uns les autres. Et dans un autre exemple, il dira, mais si vous aimez ceux qui vous aiment, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire ? Il n'y a rien de plus facile que d'aimer ce qu'on aime. Mais là où ça devient un peu plus difficile, c'est d'aimer nos ennemis, s'il y en a. Oui, mais il n'a pas le même caractère que moi. Et qu'est-ce qu'il te dit, le Seigneur, de changer le caractère ou de prier pour lui? Et puis quand tu dis il n'a pas le même caractère que moi, tu ne crois pas que tu devrais dire, Seigneur, change aussi mon caractère? L'amour, il, bibliquement parlant, il n'est pas dans un sens, il est en double sens. Et si vous me permettez une image, et je terminerai par là, c'est que l'amour que Dieu nous demande, c'est être les uns et les autres pleins d'affection, pleins d'amour. Oui ou non? De nous aider, de ne pas nous juger, parce qu'il n'y a qu'un seul qui juge. Mais non, c'est d'aller tous ensemble de l'avant, en nous aidant les uns aux autres. Et puis cet amour que nous devons manifester, si nous avons, comme nous le disions en introduction, en nous l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, c'est un esprit d'amour. Dieu nous a aimés le premier. Dieu, dans son amour, nous a donné son Fils. Et puis nous a envoyé le Saint-Esprit pour être fort et vainqueur et conduit et dirigé et affermi. Le Saint-Esprit qui guide nos pas. Puisque Christ est dans le ciel, il nous a envoyé le Saint-Esprit promu par le Père. Le lien qui nous unit, c'est un lien d'amour. Pas de jugement. Le désir de progresser ensemble. Oui ou non? Vous savez, permettez-moi un dernier exemple. Vous êtes des gens de la montagne, non? Ça fait une différence avec ma personne. Hein, parce que moi, je suis quelqu'un de la mer. Quand je remonte dans mon arbre généalogique, mes grands-parents étaient bretons. Salut la Bretagne. Et de Brest. Et mon père, il était manchot. Non pas, il avait ses deux bras. Mais il était de Cherbourg, dans la Manche, et plus exactement d'un petit village à côté qui s'appelle Écœur-de-Reville. Donc je suis quelqu'un de la mer, mes grands-parents de la mer, mon père de la mer, et moi de Toulon, de la mer. Donc la montagne, quand je la découvre, je suis content. Mais ce que je retiens dans la montagne, c'est les quelques exemples qu'elle peut nous donner. Bien sûr, la nature, la beauté, c'est formidable. Quand j'étais donc... je suis toujours en action, hein, mais quand je faisais mes tournées dans l'église d'Albertville, que je montais Bourg-Saint-Maurice, Courchevel, faire des visites partout, là-bas, dans le coin où j'étais, ce que j'aimais, c'était le changement de saison. Tous les 3 mois, je croyais que j'étais en vacances. Un coup la neige, un coup l'automne. Alors le plus beau, c'est le printemps. Je sais que vous, c'est la neige, mais pour moi, c'est le printemps. Avec toutes ces couleurs qui arrivent, et en automne, toutes les couleurs qui s'en vont. Bon, en automne, c'est un peu moins chouette quand il n'y a plus rien sur les arbres. Mais voilà, j'étais en vacances. Je suis toujours en vacances, là. Mais ce que je retiens d'autre, c'est que quand les gens montent en montagne, suivant dans la neige et tout ça, et qu'ils vont en groupe, ils font quand même quelque chose d'important. Déjà, ils y vont tous ensemble, ils sont unis. On est d'accord? Et puis, et vous avez remarqué que pour la plupart, pour les plus sages, ils prennent un guide. Vous me suivez toujours? Alors, ils s'en vont, ils marchent. Mais attendez, arrive à un moment donné, quand ça devient un petit peu plus difficile, mais même des fois au départ de la montagne, qu'est-ce qu'ils font d'important? Bon, ils sont équipés, hein. Moi je l'ai vu, les gros souliers, les bâtons pour marcher, ils sont là avec leur sac, la doudoune, et pour ne pas avoir froid en montant. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pardon? La corde. Ils sont encordés. Et le premier qui est devant, c'est le guide. Pourquoi sont-ils encordés? Vous le savez autant que moi, non? Pourquoi sont-ils autant encordés? C'est parce que si jamais il y en a un qui tombe, Il ne partira pas, il est encordé, il y a les autres, hop, ils le retiennent. À moins que parmi eux, il y en ait un qui n'est pas du tout d'accord. Quand il voit que celui à qui il n'est pas d'accord tombe, il prend un couteau, il coupe la corde et pouf, vas-y.
Ah, il est tombé, oh.
Hein? C'est dans le monde, ça. C'est pas dans les... C'est pas dans la... J'espère que je ne vous dérange pas quand je parle comme ça. Mais elles ne sont pas drôles, elles sont réelles. Ouais. Si ça peut simplement, mon frère, vous faire réagir dans le bon sens, ça serait bien. Peut-être, hein, je ne sais pas. Mais voyez-vous, la parole de Dieu est enseignante. Elle nous dit quoi? Et je termine. D'être unis à Jésus-Christ. Je pense que vous l'êtes tous. Mais ce qu'il nous dit après, c'est d'être unis les uns aux autres. Quand je regarde dans les actes des apôtres, revenez à la première église, à Jérusalem. Il nous est dit, l'église croissait. Mais ils étaient tous ensemble. Tous ensemble dans la louange. Tous ensemble dans la prière. Tous ensemble dans le partage. Et le Seigneur ajoutait à l'église ceux qui devaient être sauvés. Je vous ai apporté de tout cœur ce que le Seigneur avait mis sur mon cœur. Amen. Ça peut vous faire...